Chapitre 17. Le sauvetage. Ces paroles, hypocrites à la fois et sincères, de Gressler, se perdirent dans le tumulte du vent et de la mer. Une lame avait soulevé le radeau et l'avait presque retourné, malgré les efforts de ses rameurs. Dans le You-You, personne ne bougeait. Les fugitifs, atones, Pierre Kressler, ses jambes écartées comme scellées sur les planches du radeau, redressait d'un vigoureux coup d'aviron le fragile assemblage de planches et de barils. « C'est un homme !» grommela Charlewell. « Une brute solide, voilà tout !» rectifia Fernoux en haussant ses larges épaules. Le radeau, habilement manœuvré, recommença à se rapprocher du You-You, plein maintenant jusqu'au Lys. Kressler, que son bras gauche brisé, étroitement sanglé contre son torse, faisait apparaître plus grand, clama « Ne bougez pas, vous serez tous sauvés. C'est Drake et Miss Drake que je veux, d'abord. Je rends les autres responsables de leur sauvetage. Vous entendez, Elwell? Je vous fais hacher en morceaux si vous bougez. Allez, du jus, vous autres rascals !» Les six bandits, composant l'équipage du radeau, tirèrent plus vigoureusement sur leurs rares avirons. Ils étaient épuisés, mais la perspective d'en finir, de revenir à bord se reposer, leur redonnait de la vigueur. Francis Drake serra sa fille évanouie contre sa poitrine. Il regarda ses compagnons, et ceux-ci comprirent. Le père était vaincu, il était prêt à tout accepter pour que sa fille vécût. Charles Elwell et Pierre Ferrault, silencieux, détournèrent la tête. Le radeau n'était plus qu'à 30 mètres. « On va vous jeter une corde !» hurla Kressler. « Vous y attacherez Miss Drake. Ensuite, ce sera le tour de son père, puis de Charles Elwell et d'Edward Jellis, et de gentleman dont je ne vous sais pas le nom, mais dont je serai heureux de faire la connaissance. Attention !» Un instant, le radeau fut en équilibre sur la crête d'une lame. Un effort de ses rameurs le fit glisser dans la vallée d'eau qu'il surplombait, et il se trouva presque à toucher l'épave, submergé aux trois quarts du You-You. Un des marins de l'Adler, adroitement, lança sur le canot une mince drisse à pavillon. Elle retomba sur Fernoux qui s'en saisit. « Que dois-je faire, monsieur Drake ?» demanda le Canadien en se penchant vers le malheureux père. Francis Drake eut un nouveau regard, un regard d'inexprimable détresse et de désespoir, sans nom. Fernoux regretta sa question. Il ceintura Margaret de la mince cordelette, puis se tournant vers Drake, expliqua « Vous allez m'aider à le soulever, il faut la faire passer par-dessus le bordage du You-You. » Avant de procéder à cette opération, Fernoux, très pâle, se redressa. « Vous y êtes !» clama-t-il à l'adresse des bandits. « Attention ! Allez lorsque je vous le dirai. Et tenez-vous prêt à saisir Miss Drake de façon qu'elle ne heurte pas votre damné radeau. »« Pas besoin de conseils, l'homme !» cria Kressler. « Miss Drake est attachée, bon, nous sommes prêts. Allez, vous autres !» Ferro et Francis Drake, ayant soulevé par-dessus le bordage du You-You le corps inerte de la jeune fille, le laissèrent doucement glisser à l'eau. Une justice à rendre à Kressler. Avant de quitter l'Adler, il avait donné de sévères instructions à ses bandits pour qu'ils eussent à traiter Miss Drake avec toutes les précautions possibles et tout le respect qui lui était dû. La jeune fille, malgré la formidable agitation de la mer, fut doucement tirée jusqu'au radeau. Un des marins la saisit par le bras et par ses longs cheveux blonds qui flottaient autour de sa tête comme une auréole, et l'ayant soulevée, il la déposa doucement sur les planches, sans le moindre heurt. « Attachez-la, qu'elle ne roule pas à la mer !» commanda Kressler, qui avait l'œil à tout. « Et envoyez vite le bout !»« À vous, Drake » hurla-t-il. Francis Drake avait assisté hagard au sauvetage de son enfant. La drisse ayant été de nouveau lancée dans le You-You, le financier se laissa passer le filin sous les bras par Fernoux sans prononcer un mot. Ce ne fut que lorsque le Canadien acheva de serrer le nœud qu'il parut revenir au sentiment de la situation. Il frissonna et, toujours silencieux, saisit la main de Fernaud et la serra brusquement dans les siennes. « Dépêchons !» glapit Chrysler. « Mes hommes s'épuisent. Vous y êtes, Drake ?»« Ready !» répondit Fernaud, en aidant le financier à enjamber le bordage de l'embarcation. « Ce sera ensuite à votre tour, » fit le Canadien en se penchant vers Charles Elwell, qui cramponnait un banc du you-you n'avait pas bougé. « Moi, je préfère 20 fois voir la mer et ses poissons, plutôt que de retomber entre les griffes de ce négrier. Bonne chance !»« Mais que voulez-vous ?» commença le chimiste ébahi. N'en croyant pas ses yeux, il vit Fernaud attacher une gourde remplie d'eau douce et un sac caoutchouté plein de biscuits à une de ses ceintures de liège garnissant le canot, et muni de ce bagage, se laisser glisser à la mer du côté opposé à celui où se trouvait le radeau. Chrysler, pour l'instant, n'avait Dieu que pour Francis Drake. Il ne s'aperçut de rien. Fernaud, qui avait passé la ceinture sous ses bras, nageait vigoureusement. Il était déjà éloigné d'une 40aine de mètres lorsqu'une lame le souleva. Il apparut distinctement sur le ciel gris. « Dame de Consa !» Chrysler, soudainement pâli. « Le rascal qui s'échappe ! Elmark ! Lufschutz ! Vos revolvers ! Fusillez-moi ce voyou ! Je veux le voir couler !» Les deux bandits à qui s'adressait cette injonction cessèrent un instant d'actionner leurs avirons et, tirant les revolvers accrochés à leur ceinture, firent feu dans la direction du nageur. De la poudre des balles bien inutilement gaspillée. Fernaud était déjà plus visible, ou plutôt n'était visible que par brèves intermittences, chaque fois qu'une vague le soulevait. Mais il apparaissait régulièrement là où nul ne l'attendait, et ce, pour disparaître aussitôt. « Allez assez, imbécile !» commanda Chrysler, se rendant compte de l'inanité de cette fusillade. « Le rascal crèvera de faim et de soif. Inutile de s'en inquiéter. À vos avirons, idiots !» Le radeau, en effet, n'étant plus maintenu que par 2 avirons, dérivait peu à peu sous l'effort du vent, et malgré l'habileté de Chrysler, menaçait à chaque seconde d'être chaviré par une lame. Les deux bandits, rengainant leurs revolvers, reprirent leurs armes. Francis Drake, halé par 4 poignes vigoureuses, n'était plus qu'à quelques mètres du radeau. Il fut hissé à bord. Il était si épuisé, si vidé, qu'il put tout juste ramper jusqu'auprès de Margaret, toujours inerte. Il s'abattit à ses côtés, il lui saisit la main et ne bougea plus. « À vous, Eswell !» cria Chrysler. « Mais où est Jellis ? Je ne vois pas cette vieille moule. »« Cette vieille moule est morte, assassinée par vous !» articula le chimiste en se dressant. « Prenez-moi si vous voulez, mais je vous avertis que mes inventions, vous ne les aurez pas. »« Attrapez la corde et attachez à vous !» répondit simplement Chrysler de sa voix brève. Elwell, ayant saisi au vol la drisse qui lui était lancée, obéit et fut à son tour tiré sur le radeau. « À bord !» ordonna Chrysler à ses hommes, tandis que le chimiste, guère mieux en point que ses compagnons d'infortune, se couchait non loin de Francis Drake. Le radeau, violemment secoué par les lames, vogua vers l'Adler. Stein avait eu la bonne idée d'amener le yacht sous le vent de la grossière embarcation, laquelle ne pourrait se dire qu'à se laisser dériver vers lui. La mer, bien qu'encore très grosse, s'était considérablement calmée. L'embarquement de Margaret et de Francis Drake, aussi bien que celui de Charles Elwell et des gens du radeau, n'offrait pas de grandes difficultés. Chrysler, tremblant d'épuisement, mais se maintenant à force de volonté, fit transporter Margaret et son père dans une des plus confortables cabines du yacht. « Lorsque vous vous sentirez mieux, vous vous occuperez de votre fille, » dit-il à Francis Drake. « Voici du linge, de l'eau de Cologne et un gant de crin. Lorsqu'elle vous désirerait quoi que ce soit, vous n'avez qu'à sonner. » et le bandit se retira sans attendre de réponse. Charles Lowell fut moins bien traité. Chrysler le fit étrier, il n'y a pas d'autre mot, par deux vigoureux matelots, puis le chimiste, pourvu de vêtements et de linge sec, fut porté, les fers aux pieds et aux mains, dans la chambre de veille, sur la passerelle. Un marin lui fit avaler un grog chaud et une grosse tablette de chocolat. « Maintenant reposez-vous, maître Lowell, » déclara Chrysler. « Je vais en faire autant, ensuite, nous tenterons de régler nos comptes. » Et il sortit. Cet homme était de fer. Ayant fait permettre le yacht en marche, il s'entretint pendant quelques instants avec Stein et le chef mécanicien, puis seulement gagna sa cabine, s'étendit, toujours enveloppé dans ses vêtements trempés, sur sa couchette, et s'endormit presque aussitôt. À 1 heure de l'après-midi, après 6 heures de sommeil, il fut debout. Le vent était complètement tombé. Une longue houle trahissait seule encore le passage du cyclone. Chrysler sonna le bandit qui lui servait de maître d'hôtel. C'était un ancien étudiant qui avait renoncé à la médecine. Le diable seul aurait pu dire pourquoi. Et avec son aide, Chrysler changea d'habit et refit le pansement de son bras cassé. Il alla ensuite s'enquérir de ce que devenaient ses prisonniers. Lowell dormait toujours. Francis Drake et sa fille aussi. Chrysler s'en fut rendre visite à Marbourg, l'homme chargé des appareils frigorifiques. Marbourg était plutôt mal en point. Sa blessure à l'épaule allait bien, mais le misérable délirait sous l'empire d'un accès de fièvre chaude. Chrysler, impassible, lui tâta le pouls et l'examina longuement. « Bon, il n'en reviendra pas, » articula-t-il. S'il en réchappe, il sera fou. S'il changera guère, mais enfin, inutilisable. Heureusement qu'il restait Lowell. Il regagna la passerelle. Suivant ses ordres, l'Adler continuait toujours à courir vers le nord. Il ordonna à Urbain, qui était de quart, de prendre la hauteur du soleil afin de déterminer la position du yacht. Quelques minutes plus tard, Urbain lui apporta les résultats de ses calculs. L'Adler se trouvait par 176 degrés 30 minutes de latitude est et 48 degrés 16 de latitude nord, soit dans les parages des îles Aléoutiennes, loin des routes fréquentées par les navires. Chrysler, satisfait ou non, ne le montra pas. Il fit appeler le chef mécanicien Furkheim et lui demanda quelle était exactement la quantité de charbon restant dans les soutes. « Bon, pour 8 jours au plus, » répondit sans hésiter le maigre Poméranien. « Nous avons dû brûler beaucoup pendant le cyclone pour maintenir la vitesse. » Sans répondre, Chrysler se pencha sur la carte du Pacifique Nord, étalée sur le bureau à l'acajou de la chambre de veille. 8 jours de navigation, c'était beaucoup plus qu'il en fallait pour atteindre un port du Japon et y charbonner. Mais il se pouvait que le Mermaid, le croiseur américain, si dextrement lâché par l'Adler, fut déjà signalé par TSF dans tous les ports du monde de la description du yacht. Dans ce cas, Chrysler et son navire seraient pris comme dans une trappe, sans espoir de fuite. Et l'équipage de l'Adler, habilement interrogé, raconterait ce qui s'était passé. L'assassinat des marins américains, ensuite l'impotence. La succession logique des événements l'indiquait. Chrysler eut un frisson intérieur. Non, pas le Japon. Les ports où l'on peut charbonner dans l'empire du soleil levant sont trop peu nombreux. Mais alors, revenir aux États-Unis, trop loin, et encore plus périlleux que le Japon. Mexique, également trop loin. Une seconde, Chrysler caressa l'idée d'aller se placer sur le passage des navires reliant le Japon à l'Amérique, d'en arrêter un et de s'emparer du contenu de ses soutes avant de le couler et d'en massacrer l'équipage. Mais l'affaire lui apparut comme trop risquée. Il n'était pas assez sûr de ses hommes, lesquels, par surcroît, étaient en trop petit nombre. Chrysler regarda encore la carte. un seul pays se trouvait dans l'actuel rayon d'action de l'Adler, la Sibérie, le Kamtchatka, l'île de Sakhalin. Alexandrovsk ou à Nikolaïevsk, il était certain de trouver du charbon, et certain aussi de n'avoir rien à redouter. Les Russes n'utilisent guère le progrès. Pas de TSF chez eux, surtout dans ces ports reculés, qui servent justement à l'embarquement et au débarquement des forçats. S'ils ne trouvaient pas de charbon, sa conduite était toute tracée. Emprisonner l'équipage de l'Adler afin de s'assurer de sa discrétion et couler le navire. Alors, quant aux prisonniers, il allait y réfléchir. Avant d'atteindre l'asile, il réussirait peut-être à en tirer ce qu'il voulait. Sinon, il s'inspirait des événements. Un sourire imperceptible et sinistre accompagna cette dernière pensée. « Allez, la route sur le détroit de la Pérouse, » dit-il à Urbach. « Je vous remercie, Herr Furkheim. Tournez à 55 tours, cela suffit. Maintenant, causons, Elwell, » conclut-il en se tournant vers le chimiste qui gisait, fers aux mains et aux pieds, sur le divan faisant face à la table des cartes.